liturgie de la parole de ce samedi 24 janvier 2026, ce samedi de la deuxième semaine du temps ordinaire, année Père. Je m'occuperai de mes brebis, je veillerai sur elles, dit le Seigneur. Je susciterai à leur tête un seul berger, moi le Seigneur, je serai leur Dieu. Aujourd'hui nous célébrons la mémoire de Saint François de Sales, évêque et docteur de l'Église. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Dieu, pour le salut des âmes, tu as voulu que l'évêque Saint François de Sales devienne le serviteur de tous en toutes choses. Dans ta bonté, accorde-nous à son exemple de manifester toujours ta douce charité dans le service fraternel. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Au troisième chapitre du 20e au 21e verset. En ce temps-là, Jésus revint à la maison, où de nouveau la foule se rassembla, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Les gens de chez lui, l'apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient, il a perdu la tête. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers auditeurs, chers internautes, en pleine semaine de prière pour l'unité des chrétiens, nous célébrons la mémoire de Saint François de Sales, évêque et docteur de l'Église. Né en 1567, il est décédé en 1622. Il avait 55 ans. Saint François de Sales a traversé un moment difficile. Au cœur de sa crise, la Vierge Marie lui a tendu la main pour les conduire à Jésus. C'est justement la prière de Saint Bernard qui l'a aidé, la prière mariale, dont le titre n'est autre que « Souvenez-vous, ô très douce Vierge Marie ». Marie l'a sauvé dans sa crise. Marie est celle-là qui nous conduit toujours à Jésus. Une véritable dévotion mariale débouche toujours sur Jésus, à Jésus par Marie. C'est ça la meilleure dévotion mariale. Saint François de Sales écrira l'introduction à la vie dévote, un livre très intéressant où il montre que la sanctification n'est pas réservée seulement aux prêtres, aux consacrés, religieuses, religieux, même les laïcs. En pleine cité, à travers ce qu'ils font comme travail, peuvent se sanctifier. La sanctification est à la portée de tous pourvu que l'on fasse joyeusement ce que l'on doit faire, que l'on accomplisse joyeusement ses tâches quotidiennes dans la société, dans l'Église. Aujourd'hui, dans la première lecture, on nous présente un homme. Un homme à qui se sanctifie aussi à travers ce qu'il fait, David. Depuis quelques jours, cet homme nous impressionne. C'est un politicien. La sainteté est aussi possible pour ceux qui sont en politique. David est un politicien. Il n'est pas prêtre, encore moins prophète. Lui, il a été choisi, oint, pour diriger le royaume, pour être roi. Et avant d'être roi, il est un militaire. Il est à la tête de l'armée d'Israël. Mais cet homme a compris qu'il faut craindre Dieu. Voilà pourquoi, au moment où il pouvait tuer Saül, il ne l'a pas fait. Il n'a pas voulu toucher à celui que lui-même a considéré comme oint. Comme Saül est oint de Dieu, il avait reçu l'onction, il ne peut pas toucher cet homme-là. Il ne peut pas mettre la main sur lui. parce qu'il craint le Seigneur. Il ne veut pas verser le sang. Et aujourd'hui, on lui apprend que Saül est décédé, avec son fils Jonathan. Même si Saül était son ennemi, David ne se réjouit pas. C'est une mauvaise nouvelle pour lui. Il se met à pleurer et chante même une lamentation. Parce que la vie humaine est sacrée. Même si Saül est son adversaire, mais David ne se réjouit pas de la mort de Saül. Au contraire, David pleure. David se lamente. Et il appelle Saül et Jonathan, les deux qui sont tombés sur le champ de bataille, les héros d'Israël. Voilà comment cet homme croit fermement au caractère sacré de la vie humaine. Chers auditeurs, chers internautes, aujourd'hui dans notre société, quelle est la vision qu'on a de la vie humaine? La vie humaine qui est sacrée, David l'a compris à son époque. Et chacun peut se poser la question de savoir comment est-ce que nous concevons la vie. La vie humaine. Quand il y a des gens qui meurent, des gens qui tombent, non seulement dans l'Est, parfois à cause de l'insécurité, comment réagissons-nous à cela? Est-ce que la mort d'un être humain n'est-elle pas considérée comme un fait divers parfois? Comme si c'est une mouche qui est tombée, qui est décédée? Et que le Seigneur nous aide, que l'exemple de David nous édifie. L'être humain reste sacré, la vie humaine est sacrée. Même s'il s'agit d'une personne qui ne s'entendait pas avec vous, vous n'avez aucune raison de vous réjouir. Vous n'avez aucune raison de vous taper un verre de bière parce que, voilà, il est décédé. Comme il ne s'entendait pas avec moi, ça me réjouit. Non, la vie humaine demeure sacrée. Mais si on respecte la vie humaine, cela doit se voir aussi par notre façon de protéger la vie humaine, d'entretenir la vie en commençant par notre propre vie. Votre propre vie. Comment vous l'entretenez? Parce que c'est sacré. Et comment vous respectez la vie des autres? Parce que la vie est justement sacrée. Le Christ, dans l'évangile d'aujourd'hui, a atteint un niveau qui est tel que les gens sont impressionnés. Et chacun prend cela à sa façon. On s'étonne parce que c'est quelqu'un qu'on connaît. Et il est en train d'annoncer la bonne nouvelle dans la région de Galilée, sa région d'origine. Il est très connu. Mais certains pensent qu'il a perdu la tête. Il y a d'autres qui sont tout à fait heureux et d'autres pensent qu'il a perdu la tête. Chacun prend les choses comme il peut, comme il veut. Jésus revient à la maison. Comme c'est dit dans l'évangile d'aujourd'hui, Marc 3, de 20 jusqu'à 21. Et la foule se rassemble. Non seulement la maison est pleine, beaucoup de gens le suivent, mais même la gestion de son programme devient difficile. Il était impossible de manger. Il n'a plus de temps pour lui-même. Il n'a plus le temps pour lui-même. Il devient impossible de manger parce que lui-même est comme un homme qui est consommé par les autres. Il ne sait pas manger, il ne peut plus manger, il n'a plus le temps de manger. Et lui-même est mangé par les autres. C'est-à-dire que les gens sont en train justement de les consommer. Il est comme le pain. Jésus est comme le pain. C'est ça aussi le mystère de l'Eucharistie. C'est pas seulement durant la messe. L'Eucharistie, c'est toute une culture. Et on le voit ici. Jésus devient comme celui qui s'est donné totalement. Un peu comme le pain eucharistique qui se donne à nous dans chaque Eucharistie. Ici, il se donne totalement. Il devient l'homme eucharistique. Et depuis la nuit de Noël, à Bethléem, on l'a déposé dans une mangeoire. Bethléem qui signifie maison du pain. Jésus qui naît à Bethléem, on le dépose dans une mangeoire. C'est-à-dire, il est déjà le pain. Il est déjà une nourriture que tout le monde peut consommer, ceux qui veulent évidemment. Et on les voit dans ce texte. Il est très dévoué, Jésus. Il n'a pas le temps de manger. Il n'a pas le temps de manger, mais c'est comme si les gens sont en train de les manger, de les consommer, parce que voilà, il se donne à tous. La culture eucharistique, on voit ça à travers cet évangile. Tout à tous, comme dira Paul plus tard dans la première lettre aux Corinthiens, c'est donner totalement aux autres à travers ce que l'on fait comme travail. Considérer son travail comme une opportunité pour se donner au pays, pour se donner à l'Église, pour sa propre sanctification, pour la sanctification des autres. Un peu comme disait Saint François de Sales, dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui, dans son livre Introduction à la vie dévote. C'est un peu cela que chacun doit, à travers ce qu'il a comme engagement, comme tâche dans l'Église, dans la société, se donner totalement. Se donner totalement pour les biens du pays, pour les biens de l'Église, pour le salut des âmes, pour la gloire des dieux. C'est ce que Jésus fait dans ce texte. Comme je disais, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que, voilà, l'évangile est à la portée de tous. Les gens écoutent l'évangile, ils sont très contents. Et non seulement ils sont contents de l'évangile, mais ils voient aussi des faits concrets, des gestes que Jésus pose. Il guérit les gens, il expulse les démons. Donc c'est la joie. C'est vraiment une bonne nouvelle. Jésus est une bonne nouvelle par ce qu'il dit et par ce qu'il fait. Mais il y en a qui prennent ça autrement. Ils disent, il a perdu la tête. Il a perdu la tête. C'est ça déjà aussi un peu la passion de Jésus qui commence déjà. Parce qu'il y en a qui vont calomnier. Il y a d'autres qui sont très heureux, qui sont contents. Il y a d'autres qui calomnient, qui disent que non, c'est pas normal. Il a perdu la tête. Ça, c'est un peu ce qui se passe dans la vie de chacun de nous. C'est pas tout le monde qui parlera positivement de vous. Il y en a qui seront très contents de ce que vous faites. Il y en a qui vont applaudir, mais il y a d'autres qui ne vont pas applaudir, qui vont prendre les choses comme ils veulent, peut-être tout simplement par mauvaise foi. Ils vont critiquer, ils vont calomnier. Si ça vous arrive, rappelez-vous que Jésus est passé par là. Et Jésus reste le Messie de tout le monde, de ceux qui l'aiment et de ceux qui ne l'aiment pas, de ceux qui parlent positivement de lui et de ceux qui ne parlent pas bien de lui, ceux qui critiquent, ceux qui les calomnient au point de dire qu'il a perdu la tête. Jésus reste celui-là qui est au service de tout le monde. Ne soyez pas étonnés s'il y a des gens qui vous calomnient, parce que Jésus est passé par là et il nous a avisé, voilà ce qu'ils font pour le bois frais, à plus forte raison, vous qui êtes les bois secs, qu'est-ce qu'ils ne diront pas de vous? Donc ne soyez pas étonnés. Les calomnies, malheureusement, existaient à l'époque de Jésus, ça existe et ça existera. Mais il faut tout simplement se comporter comme Jésus, prendre les choses du côté positif. Il y a des gens qui sont contents de ce que vous faites, c'est très bien. Il faut les remercier. Il y a d'autres peut-être qui calomnient. Il ne faut pas les considérer comme des ennemis à abattre. Rappelez-vous de l'exemple de David dans la première lecture. Saül en voulait à David, mais David n'a jamais considéré Saül comme un ennemi à abattre. Il a toujours considéré comme son chef qu'il respectait. Et même à la mort de Saül, on l'a entendu dans la première lecture, David a regretté. David s'est mis à pleurer, à chanter une lamentation. Dans 2 Samuel 1, de 1 à 4, et puis des 11 jusqu'à 27 textes entrecoupés. Soyons comme David. David, celui-là, et qui était applaudi par certains. Il y a d'autres qui étaient ses ennemis, mais lui ne considérait pas ses ennemis comme étant ses ennemis. C'est un homme qui avait un cœur assez ouvert, un cœur aimable. Et on le verra aussi, comme j'ai pour Jésus dans l'Évangile, il est une bonne nouvelle pour certains, pour d'autres, il a perdu la tête. Mais Jésus, lui, continue sa mission. Ne vous laissez pas décourager par des calomnies. Vous êtes engagé dans votre paroisse, dans l'Église, à cause des calomnies, des critiques. Vous voulez reculer, ne reculez pas. Parce que vous n'êtes pas plus que Jésus. Jésus est passé par là. Il a eu des gens qui l'ont applaudi et d'autres qui l'ont calomnié, mais il a continué son bonhomme de chemin, il a continué son ministère en aimant tout le monde, ceux qui sont pour lui et ceux qui étaient contre lui. Que le Seigneur vous donne ce cœur, le cœur de Jésus, un cœur qui aime tout le monde. Vous qui nous suivez dans des hôpitaux, dans des prisons, partout où vous êtes, c'est cela qui est plus important. Avoir un cœur qui est ouvert à tous, pardonner à ceux qui sont peut-être à la base de votre souffrance, de vos épreuves. Peut-être que vous ne méritez pas d'être en prison, mais il y a quelqu'un qui vous en veut. Voilà pourquoi vous êtes là-bas. Que le Seigneur vous donne la grâce de pardonner, la force de pardonner, pour que votre cœur soit comme celui de David, comme celui de Jésus, un cœur ouvert, aimable, un cœur qui aime tout le monde, et ceux qui vous apprécient, et ceux qui ne vous apprécient pas. Soyez comme Jésus, soyez aimable, portez dans votre cœur tout le monde, car c'est en aimant que vous ouvrez les portes des grâces que le Seigneur peut vous accorder. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde sous sa constante protection, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.